Alors cette cinquième veille, on le voit, porte sur la culture, les cultures, musées, religions. Il y a un lien entre tout ça, ce sont des humanités. L'humanité a pris historiquement dans des humanités, dans des civilisations, dans des langues. Et c'est très important. Donc après avoir travaillé sur... On va dire l'économie, l'écologie, l'habiter, etc. Puis le politique, le jeu, etc. Maintenant, on est sur les cultures. Et les cultures, c'est aussi la tige de la culture, c'est la langue, le langage, la parole, et la confiance dans la parole, la confiance dans sa propre parole pour les sujets et dans la langue commune. Et je dirais d'une certaine manière que les religions, on peut en ce sens-là les traiter aussi comme des langues. C'était Kant qui comparait les religions aux langues en disant que pas plus qu'il y a de langue universelle, il n'y a de religion universelle, que les religions justement sont plurielles à la face du monde. Il s'intéressait d'un point de vue anthropologique. Kant était enseigné la géographie en fait, hein, autant que la philosophie, à cette pluralité des langues et des religions. Mais je vais faire un détour pour y venir parce que j'ai mis comme titre La pluralité des langues et des cultes, mais le vertige du vide. Et je voudrais rentrer là-dedans, dans cette question, à partir de... Je regarde quelle heure il est. À partir de l'humiliation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'humiliation il y a quelques années, là, il y a pas très longtemps. Et justement, en gros, il y a les injustices, on est très sensible aux injustices. Il y a les violences, on est sensible aux insécurités, on est sensible à ça et aux répressions, à l'oppression politique, à l'exploitation économique. Mais les humiliations du sujet parlant ou des communautés de culturelles, ça, comme milieu de transmission, ça, on n'y pense pas énormément. Alors que je pense que il y a une ampleur, une amplitude du problème de l'humiliation dans nos sociétés. D'abord, on le voit, tous les sentiments sombres suscités par l'humiliation, hein, la peur, la haine, le ressentiment, etc. Les phénomènes aussi, d'ailleurs, démagogiques, des majorités, en quelque sorte, qui manipulent les sentiments d'humiliation, les sentiments, etc. Et voilà, donc elle est un peu partout, l'humiliation. Et c'est un facteur, en plus, soit sous-estimé, on y est un peu insensible, circuler, il n'y a rien, soit au contraire, on y est trop sensible. Donc c'est comme si il y avait une sorte de... Quand on est trop sensible, trop insensible, ça veut dire que ça désigne quelque chose sur lequel on n'a pas trouvé la bonne distance ou la bonne perception. Alors je dirais une chose qui, à mon avis, est importante par rapport à l'évolution actuelle de notre société, qui est peut-être due aussi à l'accélération à cause des réseaux, de Internet, etc. C'est qu'autrefois, l'humiliation, elle était surtout verticale. C'était l'humiliation du domestique par le maître, hein, ou du petit par le grand, qui était tenu, le petit était tenu en état de sujétion, de minorité. Et ce qu'il fallait, c'était l'émanciper. Comme l'esclave, il faut la franchir, enfin, l'émanciper. Le thème, c'était l'émancipation. Mais il y a une autre, nouvelle forme d'humiliation qui est plus horizontale, qui est l'humiliation non pas d'être tenu en servitude ou en minorité, mais être relégué, tenu comme superflu, comme encombrant, comme jetable, comme finalement c'est l'exclusion. Si vous voulez. Je pense que l'exclusion est une figure très importante de l'humiliation. C'est pas que les phénomènes économiques ou que c'est aussi un phénomène culturel, la relégation, si vous voulez. Donc c'est important face à la servitude ou face à la suggestion en état de minorité, c'est très important de penser l'émancipation, qui est vraiment un thème majeur de la philosophie morale et politique depuis plusieurs siècles et aujourd'hui très encore. Mais c'est aussi très important face à l'exclusion de penser, de repenser les liens qui libèrent justement, les attachements libres, les solidarités, les interdépendances. Peut-être que un mot majeur aujourd'hui, ce serait de repenser l'interdépendance. À sortir des déclarations d'indépendance pour rentrer à l'âge des déclarations d'interdépendance. Alors, la juriste Mireille, j'ai travaillé avec elle, Mon Dieu, j'ai oublié complètement les noms, qui parlait de déclaration d'interdépendance. Voilà, donc là, c'est vraiment une pensée, une résistance à l'humiliation par des deux côtés, on va dire. Et par des institutions non humiliantes aussi. Je crois que on n'est pas assez attentif au fait que qu'est-ce que serait une société dont les institutions seraient vigilantes à toutes les formes d'humiliation, dans les écoles, dans les établissements de santé, dans les prisons, bien sûr. Parce que l'humiliation dans les prisons, c'est important, dans la police, les administrations, le monde du travail, bien sûr, le monde du langage. Parce que de toute façon, l'essentiel, c'est de l'humiliation, c'est ce qui touche le sujet parlant. Alors justement, il me semble que ce qui est atteint avec l'humiliation, c'est le sujet parlant. On a envie de dire, il y a le sujet habitant, le sujet, enfin bon, des droits, ça. Là, c'est le sujet parlant, dans sa langue et dans son milieu de langage, on va dire. Qu'est-ce qu'elle fait, l'humiliation? Elle dévaste non pas la rétribution, mais la reconnaissance. La reconnaissance, ça prend du temps. Dire merci, on ne dit pas merci tout de suite. La vraie reconnaissance, elle prend du temps, elle vient après. Elle dit, ah, tu te rappelles l'an dernier quand tu m'as dit ça, c'était important, ça a été très important pour moi. Vous voyez, la reconnaissance, elle prend du temps. De la même manière, l'humiliation, elle prend du temps. On ne réagit pas tout de suite. Parfois, ça fait du mal pendant très longtemps. Vous voyez, ça continue à creuser. Vous voyez, bon. Donc, c'est comme si l'humiliation, c'était de la reconnaissance, mais en négatif. C'est un circuit du don et du contre-don, mais qui passe du côté négatif. C'est donc le contraire de la considération, de la reconnaissance, etc. Ensuite, l'humiliation, elle montre ceux qui voulaient se cacher, se retirer, et elle invisibilise, elle ghost, elle écarte ceux qui voulaient se montrer, ceux qui voulaient rentrer dans le cercle. Et donc, ce double mouvement de l'humiliation, il est très important à comprendre dans nos sociétés en général, bon, et dans le rapport à la vie culturelle, en particulier à la vie du langage, la vie publique. Et puis, l'humiliation, elle s'attaque au visage et elle fait taire. Elle fait rougir, elle fait pâlir, elle fait taire. C'est le propre de l'humiliation, c'est que de faire taire. Et que devient la parole humiliée? Elle devient soit dérisoire, sarcastique, cynique, sceptique. On n'y croit plus. De toute façon, voilà, la parole qui a été humiliée, elle n'a plus confiance en elle-même. Elle n'a plus de crédit en elle-même. Elle ne croit plus en elle-même. Donc elle devient sceptique. Ou bien au contraire, elle renchérit, elle devient fanatique, elle demande à être crue de manière radicale. Et voilà, je dirais que c'est une sorte de double maladie du langage, un excès de sarcasme, plus rien n'a de sens, de valeur, enfin le sarcasme, le cynisme, le scepticisme, ou alors un certain fanatisme, un certain durcissement de la parole dans lequel tout est important et trop important. On ne sait plus. Je pense que le monde du langage est un monde dans lequel on doit sans cesse faire bouger le curseur entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, entre le tragique et le comique. Et lorsque le curseur est entièrement bloqué, Jerry, il y a plus de langage, il n'est plus humain, en quelque sorte. Il est malade. Et face à cela, je pense que face à cette maladie du langage, la parole qui peut résister, c'est ce que Michel Foucault est allé chercher sous le nom de parésia, c'est-à-dire la parole sincère, la parole qui, à la fois, parce qu'elle a confiance en elle, donne confiance à autrui dans sa propre parole. Alors, ce détour, c'était aussi pour dire que je pense que globalement, il y a ce phénomène de l'humiliation, il attaque les personnes, mais il attaque aussi des milieux. Et je dirais que globalement, on l'a vu au moment de la crise du Covid, c'est que tout ce qui est culture, bon, en fait, c'est secondaire, c'est un luxe, donc ça peut disparaître, c'est quelque chose à quoi tu as fait allusion. Et la religion, bien sûr, dedans. Il y a une sorte d'humiliation des cultes autant que de la culture. Alors, je vais reprendre la question par un autre biais maintenant, par un autre bout. Je parlais tout à l'heure de l'accélération des échanges avec les médias, avec l'Internet, avec le tourisme, avec l'immigration. Et du coup, il y a deux possibilités. Soit les cultures se replient dans leurs différences, sur un côté identitaire, en quelque sorte, de clôture sur soi, de repli sur soi, éventuellement, je dirais même de complaisance à soi. Soit, au contraire, puis il faisait allusion, Minot, au contraire, on fait baisser le curseur de l'identité au point où l'important, c'est tout, tout peut s'échanger, on peut tout échanger. Et donc, en quelque sorte, les cultures, on est dans une sorte d'universel marché dans lequel les cultures sont elles-mêmes sur le marché, tout est sur le marché, et on va faire son petit, avec son petit caddie, on va remplir son petit choix culturel. C'est-à-dire la culture devient elle-même un élément de consommation, éventuellement, bien sûr, un élément de distinction sociale, mais en fait, quand même un élément de marche du capital. Et je dirais que les cultures, en ce sens-là, sont vidées de leur noyau vivant de vie. Il me semble que c'est ça que l'entreprise coloniale a fait. Oui, je prends le musée sous un autre biais que toi, Pierre. Et en fait, la colonisation, au fur et à mesure qu'elle s'étendait, elle bâtissait des musées ou des expositions universelles dans lesquelles tout était présenté sous la forme d'une sorte de musée, un musée capital, au sens où des objets sont détachés de la vie à laquelle ils appartenaient pour être mis en circulation sur le marché des cartes postales, sur le marché du tourisme, sur le marché, vous voyez. Et ça, là, il y a quelque chose qui est, je trouve, très inquiétant, parce que là, ça va avec ce nihilisme, ce scepticisme dont je parlais tout à l'heure, ce sentiment de vide. Ricoeur a une formule magnifique en parlant de la touristisation générale de la culture, en disant « il n'y a plus que des autres ». Il n'y a plus que des autres. Personne ne dit « je ». Où est-ce qu'il y a un jeu qui dit, oui, ça c'est moi, je suis vivant, c'est juste pas, c'est pas une coque vide, une forme vide qu'on peut mettre dans un musée, c'est quelque chose de vivant. Alors, bien sûr, c'est un autre sens du musée, tu as raison de défendre un musée qui est sortiré de ça. Mais c'est pas si facile que ça, parce que justement, le musée a d'abord été conçu comme des grandes collections. Hein, au sens c'est presque hegélien, hein, philosophiquement, on pourrait aller chercher des grandes collections, des grandes recollections de formes vides. De forme circulable, de forme voilà. Et Ricoeur, il disait, pour résister à ça, pour rencontrer un autre soi, il faut avoir un soi. Pour qu'il y ait un autre, pour qu'il y ait tu, il faut qu'il y ait un je, quelqu'un qui dise je. Et donc ça suppose qu'il y ait de l'intérieur des formes de vie. Je pensais tout à l'heure, en écoutant la chorale malgache, quand nous avons eu le bonheur d'écouter, voilà, il y a un milieu là dont on peut dire qu'on pourrait dire c'est un milieu qui se replie sur soi pour garder sa langue, pour garder son, oui, mais en même temps il y a une transmission, et moi je pense que les cultures ne se transmettent pas par un choix individuel sur un marché de la formation, tiens moi je vais faire un peu de ça, un peu de ça. Je pense que les cultures se transmettent dans des milieux, et que la grande ruse, il faut le dire, du capitalisme ou du marché, c'est justement de casser tous ces milieux, de briser les milieux de transmission. Si vous prenez toutes les grandes chanteuses américaines qu'on connaît, ou les grands chanteurs américains, les Fitzgerald, ils ont tous appris à chanter jusqu'aux toutes dernières. Ils ont tous appris à chanter dans leur paroisse, catholique, baptiste, tout ce que vous voulez. Ils ont appris à chanter dans leur paroisse. Leur voix est sortie. Ils n'ont pas appris à chanter tout seul avec un je ne sais pas quoi. Ils ont appris à chanter parmi d'autres. Et puis parmi toutes ces voix, il y en a qui émergent. Celle-là ou celui-là, il a une voix extraordinaire. Et il devient un chanteur connu. Je crois que c'est très important de voir que la culture vivante, elle est issue de milieux vivants qui sont en état de, à la fois de fidélité, mais de fidélité créatrice, de fidélité critique, de fidélité vivante, capable de rencontrer aussi des autres. Ils sont assez, des milieux qui ont assez de confiance en eux pour rencontrer d'autres milieux, si je peux dire. Ils savent assez bien chanter dans leur langue pour ne pas avoir peur de rencontrer d'autres milieux qui chantent pour autre chose. De saluer, je dirais, l'existence d'autres traditions créatrices. Et c'est ça qui me manque, qui me semble manquer aujourd'hui. Il y a quelque chose, au contraire, comme une sorte de vide. Nous avons cessé de faire une sorte de vide central, un vide sur lequel on marche mal. C'était André Malraux dans Les Voix du silence qui disait on marche mal sur le vide. C'est-à-dire, en fait, voilà, les inventions s'appuient sur la sédimentation des inventions antérieures qui sont devenues des traditions, et donc il faut penser cette dialectique là et voilà, on a besoin de ces noyaux éthico-mythiques des sociétés qui sont des milieux qui sont qui sont habités par des scénarios profonds, souvent d'ailleurs en partie inconscients sans doute, qu'il faut sans cesse déconstruire parce qu'ils sont là, même si on ne les voit plus, ils sont là et il faut aussi les déconstruire et les recréer pour les penser de manière vivante et critique. Donc voilà, c'est un petit peu, je reviens sur l'éthos de la traduction auquel tu faisais allusion, Mino, le dialogue des cultures, il est toujours de l'ordre de la traduction, et il faut ni croire qu'on peut tout traduire, ça c'est l'universel marché, tout ramener à de l'équivalent, voilà, ni non plus se croire qu'il y a de l'intraduisible absolu et s'enfoncer dans « non, ça c'est incomparable, ça c'est intraduisible ». Je pense que justement, traduire, c'est faire ce pari que c'est quand même, c'est humain, donc c'est traduisible, ça peut me dire quelque chose. En même temps, il y a de la trahison, il y a du déplacement, et même en même temps, il y a de l'invention. Et en traduisant, il y a le travail métaphorique qui est l'occasion d'inventer des choses nouvelles. Comme on voit, les grandes traductions sont aussi des grandes œuvres qui ajoutent. Hein, bon, les réinterprétations des textes antérieurs ne cessent de rajouter des nouvelles inventions qui sont elles-mêmes à leur tour des œuvres. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est important de prendre presque la traduction comme modèle de la rencontre des cultures. Ricoeur parlait de l'hospitalité langagière à autrui et de l'hospitalité narrative à autrui. Je pense que c'est un bon modèle. La traduction est un bon modèle de la rencontre des cultures. Je terminerai en disant trois mots sur l'universel, parce que ça nous travaille beaucoup en ce moment. Alors qu'est-ce qui est universel? Est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est... Justement, il faut remettre tout ça sur le métier. Je dirais d'abord que, en m'appuyant sur Kant, finalement je parle beaucoup de Kant ce soir, c'est que dans la troisième critique, il parle du jugement esthétique comme un jugement qui est communicable mais qui n'est pas imposable. C'est-à-dire je peux dire c'est beau, mais je ne peux pas t'imposer de dire c'est beau. Et si je dis les briques sont rouges, on peut dire c'est rouge. Mais dire c'est beau, il reste quelque chose de subjectif, et donc il faut que l'autre l'accepte. Je ne peux pas obliger l'autre à éprouver un plaisir esthétique. C'est libre, il faut que ça vienne aussi de lui-même. Donc c'est une communicabilité universalisable, mais résistible. L'autre peut ne pas le recevoir. C'est très important, ne pas être obligé de recevoir un universel qu'on ne peut pas imposer, un universel résistible, ça serait un premier point. Deuxième figure, un universel, on n'a jamais fini l'universel, on croit avoir atteint l'universel, en fait il faut tout recommencer. L'universel il est tout le temps à réitérer, à réinventer. Les grandes idées universelles, il faut régulièrement les réinventer, parce qu'une fois qu'elles sont établies, elles deviennent des préjugés à leur tour, elles deviennent des... Voilà. Et je dirais peut-être une dernière chose, c'est que les grands universaux, ils restent métaphoriques. Ce n'est pas du concept transparent. Ils sont encore pris dans la gangue des langues et des cultures dans lesquelles ils ont été inventés. Donc il faut accepter un dialogue d'universaux qui est encore empêtré de métaphores. C'est-à-dire, nous ne voyons pas que nos droits de l'homme sont métaphoriques, sont pris dans les métaphores qui sont... des métaphores issues du monde biblique, par exemple, ou du monde gréco-romain. Et donc, c'est quand les autres, ils nous semblent vraiment exotiques, ils nous semblent complètement c'est très, très drôle, très, justement très métaphorique, parce que justement, nous, on les voit de l'extérieur. Mais nous, on est pareil, on est non moins provinciaux, non moins métaphoriques. Et donc, il faut qu'on fasse dialoguer ces métaphores. Voilà quelques mots sur le dialogue des cultures.